Bonjour, cher frère. Il y a un vieux dicton, levez peut-être la main si vous l'avez entendu, les bons artistes copient, les grands artistes volent. Quelqu'un l'a entendu? D'accord. Quelques artistes dans la salle, je crois, ont levé la main. J'espère qu'ils ne sont pas des voleurs. Je ne pense pas que ce soit le cas. Monsieur Bextla, j'ai vu son. Ça attire l'attention. Et il y a un article ici qui explique ce que cela signifie. Il explique l'idée sous-jacente. Ce n'est pas une mauvaise chose. J'aurais pu citer d'autres noms dont les mains se sont levées, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Cet article provient de sites6.com et est tiré d'un article intitulé Old Masters Copying Old Masters. Les vieux maîtres copient les vieux maîtres. L'affirmation selon laquelle les bons artistes copient, les grands artistes volent a été attribuée à de nombreuses personnes. L'histoire regorge d'exemples des deux côtés, et pas seulement dans l'art, mais aussi dans d'autres domaines. L'auteur pose la question suivante, cette affirmation est-elle vraie? La réponse, à mon avis, dépend à la fois de la raison de la copie et de la qualité de celle-ci. Évitons la controverse et examinons quelques maîtres anciens qui copient des maîtres plus anciens. Il existe de nombreuses raisons de copier des chefs-d'œuvre anciens. Parmi elles, l'apprentissage d'une technique éprouvée, l'apprentissage de la nature telle qu'elle est dessinée au trait ou en peinture, la recherche du noble idéal, la création d'une réplique pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre, ou l'incorporation partielle ou totale de l'œuvre de maître dans son travail et dans sa mémoire. Voici la clé. Au cours des siècles passés, la formation des peintres consistait régulièrement à copier des dessins et des peintures de maîtres anciens. À cette fin, la plupart des musées autorisaient volontiers les étudiants à pénétrer dans leurs bâtiments, et certains le font encore aujourd'hui. Il ajoute que cette pratique n'était pas limitée aux étudiants. Même des maîtres anciens parfaitement formés copiaient des maîtres plus anciens. La plupart des étudiants copistes s'efforcent de copier exactement la source qu'ils ont choisie. Les copies moins exactes, appelées copies libres, sont utiles comme aide-mémoire, tout comme le fichier clip d'un photographe ou d'un désigné. Depuis que tout le monde a un téléphone portable équipé d'un appareil photo, les copies gratuites sont beaucoup moins répandues que par le passé. C'est dommage, car même une copie gratuite est une occasion d'apprentissage. De plus, l'acte physique de le faire est en soi un rappel visuel. Il poursuit en donnant des exemples de vieux maîtres qui copient des maîtres plus âgés. Je ne vous donnerai que le premier exemple. Michel-Ange copiant Giotto. Michel-Ange copiait cette vieille peinture à l'âge de 15 ans et nous savons où il a fini par aller dans sa carrière. Le plus grand sculpteur que le monde n'ait jamais connu. Les maîtres copient les maîtres. Voir 1er Pierre 2. 1er Pierre 2. Vous pensez peut-être savoir où je vais? Mais nous allons prendre un virage à gauche dans quelques minutes. 1er Pierre 2. Michel-Ange a appris son métier en copiant les maîtres. Il est allé voir quelqu'un de plus compétent que lui et s'en est inspiré. Au verset 21 de 1er Pierre 2, Pierre écrit, car c'est à cela même que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple. Ce qui signifie une copie pour l'imitation en grec, nous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Comme ses étudiants dans les musées, il regardait l'œuvre d'un maître et essayait de l'imiter. Christ est donc venu comme l'exemple ultime. Mais je voudrais poser une question. Elle prépare ce dont nous allons parler. Elle nous aide à préparer ce dont nous allons parler. Quelle est la chose que vous ne pouvez pas apprendre de l'exemple du Christ? Prenez quelques secondes pour y réfléchir. Quelle est la chose que vous ne pouvez pas apprendre de l'exemple du Christ? Pierre a dit, il est venu, Il a souffert, il nous a laissé un exemple, une copie à imiter pour que nous suivions ses pas, et pourtant je demande, quelle est la chose que nous ne pouvons pas apprendre de lui? Et peut-être que vous avez votre réponse, peut-être que vous l'avez écrite. Passez au chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux. Hébreux 4. Nous allons commencer à voir la réponse. Quelle est la chose que vous ne pouvez pas apprendre de l'exemple du Christ? Hébreux 4 et verset 14. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui est monté aux cieux, Jésus, le Fils de Dieu, retenons notre profession. Car nous n'avons pas de souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il est passé par toutes sortes d'émotions, tout comme nous, par toutes sortes d'expériences, d'épreuves, de tentations. Il a triomphé de toutes ces épreuves. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, mais qui ait été tenté en tout comme nous, sans commettre de péché. Approchons-nous donc hardiment du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour nous aider au moment du besoin. Christ n'a jamais commis la moindre erreur. Il était sans péché. C'est ainsi qu'il s'est qualifié pour devenir notre sauveur. Vous ne pouvez pas apprendre, je ne peux pas apprendre des erreurs du Christ. Nous apprenons de toutes les bonnes choses qu'il a faites. Mais Dieu veut que nous apprenions des mauvais exemples, et il a créé un plan de secours pour cela. Dieu et Christ ne font évidemment jamais d'erreur. Nous ne pouvons apprendre d'aucun mauvais exemple qu'il donne, et pourtant il raconte encore et encore dans les Écritures que des gens ont fait des erreurs, parfois de manière tragique, parfois avec des implications éternelles, pour nous enseigner. C'est le revers de la médaille de l'exemple. Ils ne sont pas le genre de maître que nous voulons imiter. C'est le revers de la médaille. La Bible est remplie d'exemples merveilleux. La foi d'Abraham, la patience de Job, voire la persévérance de Jacob. Vous pouvez nommer un héros ou un personnage de la Bible qui enseigne un trait de personnalité spécifique ou qui illustre parfaitement un trait de personnalité, mais la Bible est également remplie de récits d'avertissement. Quand on pense aux contes pour enfants, on pense au petit chaperon rouge, à ne pas faire confiance aux étrangers ou à se faire dévorer par un loup, ce genre de contes. Mais il s'agit bien sûr de récits véridiques. 1 Corinthiens 10. Aujourd'hui, je vais me pencher sur certains de ces récits d'avertissement. 1 Corinthiens 10. Certains de ces mauvais exemples, certaines des choses que Dieu nous a données pour que nous ne les imitions pas, nous les verrons ici dans 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens, 10e verset, au reste, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que tous nos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont tous traversé la mer, qu'ils ont tous été baptisés selon Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils ont bu à ce rocher spirituel qui les a suivis, et ce rocher, c'était Christ. Mais Dieu n'a pas été satisfait de beaucoup d'entre eux. Dieu s'est irrité contre eux, ce qui a eu des conséquences dévastatrices, car ils ont été renversés dans le désert. Or, ces choses étaient nos exemples, afin que nous ne désirions pas des choses mauvaises, comme ils le faisaient aussi. Nous avons donc reçu l'exemple ultime de la manière d'agir, Christ, et ensuite, bien sûr, vous avez des personnages comme Paul qui disent « Imitez-moi comme j'imite Christ. » Paul copiait son maître. Bien sûr, le maître enseignant ultime est le Père, mais Paul imitait Christ au point qu'il se sentait en confiance pour dire aux frères, « Imitez-moi comme j'imite Christ. » Nous avons cet exemple ultime qui a marché sur terre sans péché, mais nous avons aussi ces exemples. Les exemples sont un peu différents. Il s'agit de tupeaux, D'exemple, d'une matrice telle qu'elle a été frappée. Vous pensez à une matrice qui estampille une pièce de monnaie et vous voyez une image très nette ou qui estampille un outil à partir d'une feuille de métal ou qui extrude du métal, mais il s'agit d'une matrice. On parle aussi d'un tampon ou d'une cicatrice, par analogie, d'une forme, d'une statue, d'une ressemblance, d'un échantillon, d'un modèle. Nous avons ces mauvais modèles, dit Paul. Nous avons ces mauvais exemples estampillés, dit-il. Vous savez exactement ce qu'il ne faut pas faire, dit Paul aux Corinthiens, ne soyez pas non plus des idolâtres, verset 7, comme certains d'entre eux, car il est écrit que les gens s'asseyaient pour manger et boire, et se levaient pour jouer. Ne nous livrons pas à l'impudicité, comme l'ont fait certains d'entre eux, qui sont tombés en un jour au nombre de 320 000. Ne tentons pas non plus Christ, comme certains d'entre eux l'ont tenté et ont été détruits par les serpents. La situation est très différente aujourd'hui, car le péché n'est pas puni en temps réel. Je me souviens que lorsque j'étais dans l'Église unie de Dieu, j'avais un ami. Il m'a invité chez lui et c'était un homme très gentil. J'ai hâte de le revoir un jour. Mais il m'a donné un exemplaire, il m'a prêté un exemplaire ou me l'a donné. Je ne me souviens plus. Je l'ai toujours, donc j'espère qu'il me l'a donné, mais c'est un exemplaire du mystère des âges. Et chaque fois que je l'ouvre, de temps en temps, je vois son nom en haut et cela me rappelle une histoire qu'il m'a racontée lorsqu'il était enfant. Il m'a dit, quand j'étais enfant et que je grandissais dans l'église, je pensais qu'immédiatement après avoir péché, Dieu descendait et vous punissait. Pendant toute son enfance, il a donc eu peur, ce qui est terrible, mais cela illustre bien la situation. Si vous voyiez Dieu frapper 23 000 personnes en temps réel, vous réfléchiriez à deux fois avant de vous soulever. Vous réfléchiriez à deux fois avant de vous lever pour adorer une idole ou forniquer, comme dans les exemples précédents. Aujourd'hui, les choses ne se passent pas en temps réel. Dieu attend de nous que nous regardions ces exemples. Regardez, d'accord, voici ce qui s'est passé dans l'Antiquité. Voici ce que je pense de certaines de ces actions. Ne commettons pas d'impudicité. D'accord, 23 000, ne tentez pas Christ, comme certains d'entre eux l'ont tenté et ont été détruits par les serpents. Ne murmurez pas non plus, comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent et furent détruits par le destructeur. Or, toutes ces choses leur sont arrivées à titre d'exemple, le même mot pour modèle, pour exemple, pour des, à titre d'exemple, et elles sont écrites pour notre admonition, c'est-à-dire pour attirer notre attention ou pour nous avertir dans le grec. Ils sont écrits pour nous avertir, c'est-à-dire pour attirer notre attention ou pour nous mettre en garde en grec. C'est pourquoi, que celui qui se croit debout prenne garde de ne pas tomber. Bons et mauvais exemples. Il y a une phrase célèbre de George Sand Adriana, que la plupart des gens ont probablement entendu, je crois qu'elle est citée dans la littérature ecclésiastique si je me souviens bien. Ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le répéter. Et il existe de nombreuses variantes de cette phrase qui ont été produites, avec des versions alternatives de la même citation. Wikipédia en cite quelques-unes, mais celle qui fait le plus mouche ici, alors que nous examinons de mauvais exemples, et que ceux qui n'apprennent pas des erreurs de leurs prédécesseurs sont destinés à les répéter. Ceux qui n'apprennent pas des erreurs de leurs prédécesseurs sont destinés à les répéter. Nous allons donc nous pencher sur les mauvais exemples, et plus précisément sur les mauvais exemples de certaines personnes dans la Bible. Certains des récits de mise en garde que Dieu nous donne, certains de ces exemples finaux que nous ne voulons pas imiter. Et, bien sûr, les êtres humains ont commencé à se tromper très tôt. Il suffit de se reporter au chapitre 4 de la Genèse. Le premier être humain né, non pas créé par la main de l'homme, mais le premier être humain né de la même manière que vous et moi. Adam et Ève ont été chassés du jardin. Si tu es comme moi, tu as des parents qui ont essayé de te guider et peut-être même qu'ils se sont ouverts à toi et t'ont parlé d'une erreur qu'ils ont faite quand ils étaient plus jeunes pour que tu ne fasses pas la même erreur. Quand j'avais ton âge ou que j'étais un peu plus âgé que toi, j'ai fait telle ou telle chose et c'est arrivé. Ne fais pas comme moi ou ne fais pas comme ton oncle qui a fait telle chose. Chaque famille a des exemples qu'elle cite. Imagine que tu sois Caïn et que tu aies pour parents Adam et Ève. Oui, mon fils, tu sais, il y a 100 ans, nous étions dans le jardin et Dieu nous a créés. Il n'y avait personne d'autre. Nous étions les premiers êtres humains et Dieu nous a donné des instructions très précises, mais nous avons décidé d'écouter un serpent à la place. Je veux dire, Caïn a reçu les leçons sur un plateau d'or. Il n'y a pas plus traumatisant que cela. J'ai été littéralement confronté au diable incarné par un serpent et je l'ai écouté. Je n'aurais pas dû faire cela et j'ai changé à jamais le cours de l'humanité. Cependant, ou papa, oui, nous n'aurions pas fait cela si ta mère n'avait pas été là. Quelle que soit la teneur de ces conversations, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Je veux dire, je suis sûr qu'ils ont tous les deux un peu édité et pris une certaine licence et essayé de changer. Adams. Je doute qu'il ait appris à ne pas rejeter la faute d'une manière parfaite juste parce qu'il a été expulsé du jardin. Mais vous comprenez que Caïn a reçu des leçons sur un plateau d'or et pourtant cela s'est produit pour l'un d'entre eux. Adam connut Ève, sa femme, qui conçut et enfanta Caïn, et il dit, « J'ai engendré un homme de la part du Seigneur. » Elle enfanta encore son frère Abel, et Abel gardait les brebis. Mais Caïn était un laboureur. Caïn était donc un agriculteur et Abel un berger. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta du fruit de la terre une offrande à Dieu, le premier-né de Caïn. Il apporta l'offrande en premier, une offrande à l'Éternel. Abel apporta aussi des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel eut égard à Abel et à son offrande, mais il eut égard à Caïn et à son offrande, donc pas seulement à son offrande, mais à Caïn lui-même, il n'eut pas égard, et Caïn fut très irrité, et son visage s'altéra. Il y a plusieurs leçons à tirer de cette histoire. La première est que Dieu n'aime pas les légumes. Non, pas du tout, mais Caïn était un cultivateur de légumes, mais il est évident qu'il n'a pas apporté à Dieu le meilleur de ce qu'il avait. Il avait peut-être des légumes qui avaient l'air abîmés ou qu'il n'avait pas vraiment envie de manger, et il s'est dit, « Oh, j'allais les jeter de toute façon, je vais les donner à Dieu. Je vais les donner à Dieu. Je peux aussi bien faire un double usage de ce maïs, ou quoi que ce soit d'autre, je vais le donner à Dieu comme offrande. » Abel a été très attentif à ce qu'il a donné à Dieu. Il a choisi le premier-né. Je suis sûr qu'il s'est assuré qu'il était en bonne santé. C'était un agneau qu'il chérissait probablement, mais il l'a donné à Dieu. Caïn n'a pas été généreux. C'est l'une des premières choses que nous allons examiner. Il a donné un mauvais exemple en matière de générosité. Il ne voulait pas donner à Dieu ce qu'il y avait de mieux. 2 Corinthiens 9. Caïn n'était pas généreux. Je pense que si j'étais jeune et dans l'église, j'aurais essayé d'utiliser Genèse 4 pour justifier le fait de ne pas manger de légumes. C'est un fruit à portée de main. Dieu veut des steaks, du mouton. C'est tout à fait logique. 2 Corinthiens 9, verset 1. Pour ce qui est du service des saints, de l'entraide, de la générosité les uns envers les autres, il est superflu que je vous écrive, car je connais l'ardeur de votre esprit, dont je me glorifie auprès des Macédoniens, il y a un an que l'Achaïe est prête, et votre zèle en a excité beaucoup. Ils ont vu ton bon exemple et ils ont voulu l'imiter. Ton bon exemple en a provoqué d'autres. Il a encouragé les autres, disait Paul. J'ai envoyé les frères, afin que nous ne nous glorifions pas en vain de vous, pour que, comme je l'ai dit, vous soyez prêts, de peur qu'un Euromacédonien ne vienne avec moi et ne vous trouve mal préparés. Nous, qui ne disons pas vous, devrions avoir honte de cette même vantardise. C'est pourquoi j'ai jugé nécessaire d'exhorter les frères à aller au-devant de vous et à préparer à l'avance votre générosité, préparer l'offrande. Vous aviez déjà remarqué que l'offrande devait être préparée par souci de générosité et non par convoitise. Mais voici ce que je dis, celui qui sème avec parcimonie moissonnera aussi avec parcimonie. Cela ne s'applique pas seulement à l'argent ou aux offrandes, mais si vous n'êtes pas généreux, vous ne recevrez pas autant. Paul dit, celui qui sème avec parcimonie récoltera aussi avec parcimonie, et celui qui sème avec abondance récoltera aussi avec abondance. Regardez l'exemple d'Abel et de Caïn au sens le plus strict. Dieu a respecté non seulement l'offrande d'Abel, mais aussi Abel. Il a reçu l'éloge, l'approbation de Dieu. Non pas que nous puissions acheter cela à Dieu, mais Dieu a été impressionné par le cœur d'Abel, alors que Caïn a semé avec parcimonie récolté avec parcimonie. Pire que la parcimonie, en fait. Dieu était en colère contre lui. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans rechigner ni se sentir obligé de le faire, car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Il ne veut pas que nous soyons démunis en donnant. Ce n'est pas du tout son but. Ce n'est pas du tout son but. Il veut que nous apprenions la leçon de la générosité, et il promet que si nous le faisons de manière équilibrée, il prendra soin de nous. Le 8e verset dit, « Et Dieu peut faire abonder toute grâce en votre faveur, afin que, ayant toujours une entière suffisance en toute chose, vous abondiez en toute bonne œuvre. » Dieu pèse soigneusement les circonstances. Nous n'avons pas tous les détails de l'offrande que Caïn s'est procurée, mais nous pouvons supposer qu'il a manifestement donné quelque chose qui n'avait aucune valeur à ses yeux. Il n'a pas réfléchi attentivement à ce qu'il voulait donner à Dieu. Luc, chapitre 20. Luc, chapitre 20. Il aurait pu lui donner de merveilleux légumes. Je veux dire, regardez les légumes que nous cultivons ici sur le campus. De beaux légumes qui auraient fait plaisir à Dieu. Luc 20, verset 45. Caïn n'était pas généreux. Au milieu du peuple, Christ dit aux disciples, « Prenez garde aux scribes qui veulent marcher en robe longue, aimez les salutations sur les marchés, les premiers sièges dans les synagogues et les principales salles dans les fêtes, qui dévorent les maisons des veuves et qui, pour se donner en spectacle, font de longues prières, ceux-là recevront une plus grande damnation. » 21. 1. Il leva les yeux et vit les riches qui jetaient leurs dons dans le trésor. Un récit très familier. Il vit aussi une pauvre veuve, l'une de ces veuves dont les pharisiens auraient peut-être essayé de profiter, au verset 47, qui jetait là 2 piécettes. Et il dit, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre femme a jeté plus que toutes les autres. Elle donnait par manque. En effet, tous ceux-là ont donné de leur abondance pour les offrandes de Dieu, tandis qu'elle a donné de son indigence tout ce qu'elle possédait. Mais elle, de son indigence, a donné tout ce qu'elle avait de vivant. Elle n'avait rien et pourtant elle a donné ce petit peu. Ce n'est pas ce que nous voulons faire. Encore une fois, nous ne voulons pas être démunis, mais c'est une leçon importante. Cela a fait un peu mal. Dans son cas, cela a fait très mal. Ce n'était pas un manque de générosité. C'était une générosité extrême. Cela me rappelle une histoire que je n'ai pas appréciée lorsque j'étais jeune. Ma famille, du côté de mon père, comme je l'ai déjà mentionné, est originaire du Liban, et c'était une famille très pauvre. Tous les frères, la mère, le père, grandissaient dans la même pièce, et non dans des pièces séparées comme c'est le cas ici aux États-Unis ou dans des pays plus prospères. Même lorsque je rendais visite à ma grand-mère dans les années 90 et au début des années 2000, elle n'avait toujours pas l'eau courante dans sa maison. Nous avons fini par installer un réservoir sur le toit. Ses enfants ont essayé de la faire venir ici, mais elle n'a pas voulu. Elle voulait rester avec ce qu'elle connaissait, elle est morte très vieille. Mais il n'y avait pas d'eau courante, seulement de l'électricité pendant une partie de la journée, si je me souviens bien. Elle lavait le linge dans les aqueducs au bord de la route, prenait un bain dans une baignoire et versait de l'eau. Les toilettes n'étaient pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. C'est ce genre de pauvreté. Et la seule substance qu'elle avait, c'était ses enfants qui lui envoyaient l'argent dont elle avait besoin pour acheter ce qu'elle voulait manger. Elle n'allait pas se priver, ne vous méprenez pas. Mon père et ses frères l'aimaient beaucoup, mais elle avait des poulets, et ces poulets lui étaient très précieux. Elles étaient comme ses animaux de compagnie, mais c'est aussi là qu'elle obtenait ses œufs, et elle adorait ses poules. Parfois, elles entraient même dans la maison. Si vous laissez la porte entrouverte, elles entrent en courant. Elle chérissait ses poules. C'est en gros ce qu'elle avait dans la vie. Nous mangions des œufs et d'autres choses encore. Mais un jour, parce que ses petits-enfants sont là et qu'elle n'a rien, elle a décidé de tuer un de ses poulets et de préparer un repas pour mon fils et ses enfants. Mon père en a été très touché à l'époque. Enfant, nous ne comprenions pas. C'est comme si on achetait un poulet rôti à l'épicerie. L'arrière-grand-mère a fait du poulet aujourd'hui. Mais avec le recul, c'était un geste énorme. Dans ce cas, vous donnez ce qui compte pour vous. C'est juste un exemple d'une veuve qui donne quelque chose de très spécial. Ce n'était pas pour Dieu, c'était pour les autres, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais ce sacrifice que Dieu attendait d'Abel allait bien au-delà, ou plutôt de Caïn, allait bien au-delà de l'aspect financier. En fait, ce qui est plus important, c'est que nous lisons ce qui suit dans Romains 12. Plus important encore, Dieu veut que nous vivions une vie de sacrifice. Et nous n'allons pas seulement nous attaquer à Caïn aujourd'hui. Nous parlerons aussi d'autres individus imparfaits. Mais Dieu a consigné ces choses pour que nous les apprenions, et il est donc important que nous les examinions. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à présenter votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Un sacrifice vivant. Nous devons être un sacrifice pour Dieu. Nous avons renoncé à notre propre vie et nous vivons maintenant une vie qui correspond à ses désirs pour nous. Nous avons cessé de faire ce que nous voulions. Nous y reviendrons plus tard. Mais nous sommes devenus un sacrifice vivant, saint, acceptable pour Dieu, ce qui est votre service raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez découvrir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Revenons au récit de la Genèse. Le premier problème était que Caïn n'était pas généreux, et Dieu l'a rappelé à l'ordre, et quelque chose d'autre est apparu. Genèse 4. Revenons à la Genèse. C'est une chose qu'on vous signale une erreur et que vous l'appreniez bien. C'est une autre chose si une erreur est signalée et que nous n'en tirons pas la leçon. Il se peut même que nous nous enfoncions et que les choses empirent, comme nous le verrons dans Genèse 4. Nous allons relire le cinquième verset. Dieu n'eut aucun égard pour Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage s'assombrit. Les émotions de Caïn ont commencé à prendre le dessus. L'irritation signifie briller ou s'échauffer, au sens figuré, habituellement, s'enflammer dans la colère, la jalousie. Pourquoi était-il en colère? Était-il jaloux de son frère? Probablement. Il a fait une meilleure offrande. Dieu a été satisfait de lui, mais il n'est pas satisfait de moi. C'est compréhensible. Une jalousie naturelle. Peut-être en colère contre son frère. Pourquoi? Pourquoi dois-tu te surpasser? Pourquoi n'as-tu pas donné quelque chose d'égal à moi? Il est peut-être même en colère, probablement en partie contre Dieu. C'est un terrain très dangereux. Mais il n'était pas seulement en colère. Il était très en colère. L'Éternel dit à Caïn, verset 6, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Quelle est la raison pour laquelle vous êtes dans cette disposition? Si tu fais bien, comme ton frère Abel, si tu fais bien, ne seras-tu pas accepté? Ne seras-tu pas accepté? Et si tu ne fais pas bien, le péché est à la porte, et son désir sera pour toi, et tu domineras sur lui. » Il y a une bifurcation sur la route ici, Caïn. Tu as une mauvaise attitude à propos de quelque chose que tu as fait de mal. Tu peux soit y remédier, te repentir, aller de l'avant, soit t'enfoncer et le péché se tient à la porte, et il te veut. Il veut vous faire sortir. Caïn parla à Abel, son frère, et comme ils étaient dans les champs, Caïn s'éleva contre Abel, son frère, et le tua. Le premier enfant né de parents humains a tué son frère. L'Éternel dit à Caïn, « Où est Abel, ton frère ?» Il répondit, « Je ne le sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ? Je me fiche d'Abel. » Et il dit, « Qu'as-tu fait ?» Dieu l'interrogea. « La voix du sang de ton frère me crie du sol, et maintenant tu es maudit de la terre, qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne cédera plus à ta force. Tu seras un fugitif et un vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est plus grand que je ne puis le supporter. » Il est probablement contrarié par la punition qu'il a reçue, pas nécessairement par « Vous ne l'entendez pas dire, oh, je suis terriblement désolé d'avoir tué mon frère. » Non. La punition est plus que ce que je peux supporter. Je ne veux pas faire mon temps, pour ainsi dire. Caïn s'est laissé dominer par ses émotions. C'est l'un des premiers récits de la Bible. Dieu dit que l'on peut se laisser dominer par ses émotions et que cela peut avoir des conséquences désastreuses, et nous ne sommes pas à l'abri de cela non plus, mes frères. L'émotion peut souvent se transformer en offense ou en frustration. Les graines de cette colère peuvent nous faire dérailler, voire mettre fin à notre quête de la vie éternelle. Nous faire dérailler dans notre quête ou y mettre un terme. Il y a des fois où les gens sont offensés, cela n'arrive pas souvent, mais ils sont offensés et quittent l'église. Il s'est peut-être passé quelque chose avec les frères. Il s'est peut-être passé quelque chose avec leur pasteur. Ils ont peut-être été contrariés par la prophétie. Pourquoi les choses changent-elles? Et ils perdent de vue la situation dans son ensemble. Regardez tout ce que nous comprenons avec la prophétie. Regardez le chemin parcouru. Soit dit en passant, M. Pack ne prendra pas la parole aujourd'hui. Il a appris d'autres choses puissantes que je connais, mais que je n'ai pas le droit de vous dire. Il en parlera probablement lors du prochain sabbat. Je peux vous dire que le tableau est plus clair et meilleur que ce que nous croyions auparavant, mais quelque chose d'aussi banal que cela peut faire trébucher quelqu'un. Ils peuvent perdre de vue le chapitre 13 des 1 Corinthiens, où Paul met la prophétie en perspective. Mais l'offense, la colère, l'émotion, quelle qu'en soit la cause, qu'il s'agisse de quelque chose qui s'est passé au culte, dans la cuisine ou avec des frères, ou lors d'une soirée, ou peut-être que vous avez écrit quelque chose à votre pasteur et qu'il ne vous a pas répondu, peu importe ce que c'est. Nous n'entrons pas dans les détails, mais cette colère, cette émotion, si elle n'est pas maîtrisée, peut engendrer l'offense, ce qui est l'une des principales choses contre lesquelles Christ nous a mis en garde, contre lesquelles nous devons nous prémunir. C'est ce qu'illustre le récit de Caïn, de Dieu et d'Abel, où Caïn a atteint un niveau thermonucléaire et s'est mis en colère contre Dieu lui-même. Bien sûr, Dieu a mis en place un gouvernement et il a des frères dont l'esprit réside en eux, et il y a beaucoup de place pour l'offense lorsque des êtres humains sont impliqués, mais regardez ce contre quoi Christ a mis en garde dans le chapitre 13 de Matthieu. Il a donné une liste très courte de choses qui peuvent faire échouer la foi d'une personne. Lisons-le dans Matthieu 13. Et au verset 16, mais vous êtes bénis. Matthieu 13, 16. Heureux vos yeux, car ils voient, et vos oreilles, car elles entendent. Christ dit aux disciples, je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Écoutez donc la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, nous comprenons mieux que jamais la parole du royaume. C'est incroyable grâce au voyage que nous avons fait. Nous sommes incroyablement privilégiés, contrairement à toutes les générations passées. C'est une époque extraordinaire pour être en vie. Écoutez donc la parabole du semeur, si quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, alors vient le méchant, et il enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence au bord du chemin, mais c'est celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, comme celui qui entend la parole et la reçoit avec joie, mais qui ne s'est pas enraciné, mais qui supporte un certain temps, car lorsque surviennent la tribulation et la persécution à cause de la parole, lorsque quelque chose va mal à cause de la justice, lorsque Dieu dit à Caïn, je ne suis pas content de toi, à la longue, il est offensé. Nous pourrions dire qu'au fil du temps, il se laisse emporter par ses émotions et qu'il est offensé si nous pouvons l'amplifier un peu. L'attaque. Elle commence toujours par agrafe une émotion, puis elle se développe, et si l'on n'y prend pas garde, elle peut vous écarter de la voie de Dieu. Elle peut m'écarter du chemin de Dieu. Aucun d'entre nous n'est à l'abri de cela. Nous voulons être comme celui qui a reçu la semence sur la bonne terre, bien sûr, mais les mauvaises décisions ne sont jamais, jamais, jamais nées de la logique ou de la vérité. Les mauvaises décisions spirituelles ne sont jamais le fruit de la logique ou de la vérité. Elles sont le fruit de l'émotion et d'un mauvais calcul. Elles sont le fruit d'un manque de perspective. De ne pas faire une montagne d'une topinière et de laisser cette montagne nous tomber dessus, pour ainsi dire. L'émotion. Dieu a demandé à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Ne te laisse pas abattre. Le péché est à la porte et il te réclame. Maîtrise ta colère, lui dit-il, nous pourrions dire. 1 Pierre 2. Peut-être que ce qui nous choque, vous ou moi, nous donne raison dans ce cas. Chaque circonstance est différente. Peut-être avons-nous raison. Eh bien, Pierre, si je peux le citer librement, dit en substance, on s'en fiche. Voici 1 Pierre 2, 20. 1 Pierre 2, 20. Quelle gloire y a-t-il à prendre son mal en patience lorsque l'on est battu pour ses fautes? Vous savez, tout le monde est parfois malmené pour ses fautes. Mais si, lorsque vous faites bien et que vous souffrez pour cela, vous prenez votre mal en patience, c'est acceptable pour Dieu. C'est en fait une occasion d'impressionner Dieu. Ouah. Vous savez, les choses ne vont pas bien pour cette personne et ce n'est pas nécessairement sa faute. C'est peut-être 50% de sa faute ou 51% de la faute de l'autre personne et 49%. Les relations humaines sont tellement complexes. Mais il n'était pas vraiment en faute ici, mais il l'a bien pris, ou bien elle, il y avait vraiment un malentendu. Ce n'est pas elle qui avait tort dans cette situation, mais vous savez quoi? Elle l'a accepté, elle est passée à autre chose. Elle voulait vivre en paix. Elle ne voulait pas que la situation prenne plus d'ampleur qu'elle n'aurait dû. Quoi qu'il en soit. Car c'est déjà ici que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces, comme le dit l'Écriture que nous avons citée au début. Il y a des moments où nous pensons que notre colère est justifiée. Même si c'est le cas, nous devons nous en remettre. Nous devons aller de l'avant. Sinon, nous risquons de nous mettre en colère et, spirituellement parlant, de devenir un meurtrier. Reprenons l'exemple de Caïn. Nous pouvons faire du mal à l'un de nos frères. Nous pouvons nous faire du mal à nous-mêmes. Nous pourrions sortir de l'Église, quel que soit le cas. Je ne parle pas ici de détails précis. Pierre dit que si vous souffrez pour avoir mal agi alors que vous avez bien agi, prenez votre mal en patience. Regardez toutes les souffrances que Christ a endurées, et nous avons vu qu'il était, bien sûr, sans péché. Allons-nous laisser nos émotions prendre le meilleur de nous-mêmes? Chaque fois que la colère ou la frustration surgit, nous avons la possibilité d'examiner la situation et nous pouvons soit bien faire, comme c'était le cas dans la Genèse. Nous pouvons bien faire et être acceptés, ou nous ne pouvons pas bien faire et nous pouvons tomber dans la spirale du péché. C'est une formidable leçon de Caïn. Il n'a pas gardé son cœur. Il n'a pas gardé son cœur avec toute la diligence voulue, comme l'indiquent les proverbes. En parlant des proverbes, Salomon. Nous avons une vision très différente de Salomon par rapport à l'histoire. Nous avons beaucoup appris sur Salomon. Il a répondu à de nombreuses questions pour moi et, j'en suis sûr, pour beaucoup d'entre vous. Comment quelqu'un peut-il avoir un millier de femmes et être considéré comme un grand homme de Dieu? Il suffit d'un seul exemple ou d'abuser de ses subordonnés pour être considéré comme un grand homme de Dieu, ou de multiplier les chevaux, les maisons, etc. des choses contre lesquelles Dieu a mis en garde et qui sont toujours considérées comme telles. Il s'agissait de questions déroutantes qui ont maintenant été éclaircies. 1 Roi 3. Regardez ses débuts. Ce mauvais exemple nous enseigne de profondes leçons. Cet échec tragique avait aussi un père qui avait de grandes choses à imiter, et certaines choses qu'il regrettait profondément d'avoir faites. Je suis sûr que Salomon a entendu parler du premier mari de sa mère et de ce qui s'est passé. Et je suis sûr que David a dit à Salomon, « Je ne peux pas croire l'état d'esprit dans lequel je me suis laissé aller lorsque cela s'est produit, lorsque j'ai commis l'adultère et lorsque j'ai tué l'ancien mari de ta mère. » C'est une véritable leçon. Heureusement, nous n'avons pas de parents qui peuvent nous enseigner des leçons aussi lourdes. Ce que je veux dire, c'est que Salomon avait des antécédents, mais il avait aussi ceci. 1 Roi, verset 3. Salomon aimait l'Éternel et suivait les lois de David, son père. Seulement, il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Le roi se rendit à Gabaon pour y offrir des sacrifices, car c'était le grand lieu. Salomon offrit 1000 holocaustes sur cet autel. À Gabaon, le Seigneur apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Dieu dit, « Demande ce que je te donnerai. » Salomon dit, « Tu as fait une grande miséricorde à ton serviteur David, mon père, selon qu'il a marché devant toi dans la vérité, la justice et la droiture de cœur, et tu lui as gardé cette grande bonté de lui donner un fils pour qu'il s'asseye sur son trône, comme il l'est aujourd'hui. Et maintenant, Seigneur, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un petit enfant. Je ne sais ni sortir ni entrer. » Bien sûr, il connaissait ces choses, mais c'est une grande humilité qui s'exprime par des figures de rhétorique. Je ne sais ni sortir ni entrer. Et ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, un grand peuple, qu'on ne peut ni compter ni dénombrer. Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, afin que je puisse discerner entre le bien et le mal, car qui peut juger ce peuple si grand ? L'Éternel se réjouit de cette demande de Salomon. Dieu lui dit, « Parce que tu as fait cette demande, et que tu n'as pas demandé pour toi une longue vie, ni des richesses, ni la vie de tes ennemis, mais que tu as demandé pour toi l'intelligence pour juger, voici, j'ai agi selon tes paroles. Je t'ai donné un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y a pas eu avant toi de semblable à toi, et qu'il n'y en aura pas après toi de semblable à toi. Une sagesse inégalée. Je t'ai aussi donné ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire. Or, ces richesses, c'est Dieu qui les lui a données, acceptables, bien sûr, sinon Dieu ne les lui aurait pas données. De sorte qu'il n'y aura personne parmi les rois qui te soit semblable jusqu'à la fin de tes jours. Et voici le conditionnel. L'un des conditionnels, si tu marches dans mes voies, si tu observes mes lois et mes commandements, comme a marché ton père David, je prolongerai tes jours. Salomon se réveilla, et voici, c'était un songe. Il vint à Jérusalem, se présenta devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel, offrit des holocaustes et des sacrifices de paix, et fit un festin à tous ses serviteurs. Il avait tout. Il avait tout, le physique, la sagesse, la connaissance. Il ne manquait de rien. Lisez le verset 29. Le chapitre suivant, 4, 29. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une intelligence surabondante, et de la largeur de cœur, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Il comprenait la vie, et pourtant cela s'est produit. Premier roi, chapitre 11. On lui a tout donné. Mais Salomon. 11, verset 1. Aima beaucoup de femmes étrangères, des filles de Pharaon, des femmes des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniens, des Hittites, des nations au sujet desquelles l'Éternel a dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles n'iront point chez vous. Car elles détourneront certainement votre cœur après leur Dieu. » Salomon s'est attaché à ces femmes par amour et a désobéi à Dieu. Il eut 700 femmes, des princesses, et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Lorsque Salomon fut vieux, ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut pas fidèle à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, la déesse des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Salomon fit ce qui déplaît à l'Éternel, et il ne suivit pas entièrement l'Éternel, comme David, son père. C'est alors que Salomon bâtit un haut lieu. Et au verset 9, l'Éternel fut irrité contre Salomon, parce que son cœur s'était détourné de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois et qui lui avait ordonné de ne pas aller après d'autres dieux. mais il n'observa pas l'ordre de l'Éternel. Peut-être même que Dieu lui est apparu deux fois à ce sujet, je n'en suis pas sûr. C'est pourquoi l'Éternel dit à Salomon, « Si tu agis ainsi et si tu n'observes pas mon alliance et mes lois que je t'ai prescrites, je t'enlèverai le royaume et je le donnerai à ton serviteur. » Le royaume lui a été enlevé. Aujourd'hui, nous aussi, chaque chrétien, avons la possibilité de nous voir retirer le royaume, pour ainsi dire, et la désobéissance est un moyen sûr d'y parvenir. L'exemple ultime de quelqu'un à qui l'on a tout donné et qui s'en éloigne. Vous et moi, frères, sommes un peu comme Salomon dans un certain sens. Nous n'avons pas de richesses. Si nous n'avons pas les richesses, c'est en partie parce que ces richesses peuvent nous détruire. Nous n'avons pas les richesses de Salomon, mais nous avons la connaissance. Nous avons la compréhension. J'ose dire que nous comprenons certains mystères que Salomon n'a pas compris. Nous avons l'avantage de lire les paroles du Christ. Nous avons l'avantage d'avoir la prophétie ouverte à notre esprit. Maintenant, avons-nous la capacité administrative d'un homme visité par Dieu et habilité à gouverner une nation physique, il y a des milliers d'années? Non. Mais nous avons une grande sagesse que Dieu nous a donnée, une sagesse précieuse que Dieu nous a donnée, et nous connaissons les termes. Nous ressemblons beaucoup à Salomon. Reportez-vous au récit de Luc sur la parabole du semeur. Luc ajoute dans Luc 8, 10, « À vous qui sortez de la parabole, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais à d'autres en parabole, afin qu'en voyant ils ne voient pas et qu'en entendant ils ne comprennent pas. » Nous disposons d'un incroyable arsenal de connaissances, et nous avons été triés sur le volet aussi sûrement que Salomon l'a été. Jean, chapitre 6. Nous ressemblons beaucoup à Salomon, du moins au début. Jean 6 et verset 65. Christ dit, « C'est pourquoi je vous ai dit. » Jean 6, 65. « Que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par mon Père. » Il nous a été donné par Dieu d'être ici, d'être exposé à cette connaissance, d'être à la poursuite de la vie éternelle, de comprendre la famille de Dieu, de comprendre notre énorme potentiel. Il fallait que cela nous soit donné, tout comme la sagesse a été donnée à Salomon, tout comme les mystères nous sont donnés, tout comme notre capacité à comprendre est un don de Dieu. Dès lors, plusieurs de ses disciples s'en allèrent et ne marchèrent plus avec lui. Alors Jésus dit aux 12, « Vous aussi, allez-vous-en ? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Vous avez les paroles de la vie éternelle, vous avez la vérité. » Chapitre 8. Nous avons la connaissance, une connaissance étonnante, une connaissance qui change la vie. Nous avons le plan, la carte routière de la vie éternelle. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, Jean 8 verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous écoutez ce que j'ai à dire, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Nous avons les clés de la liberté, finalement de la liberté de la vie physique, de la liberté de la vie physique, pour entrer dans la famille de Dieu. Verset 36, « Si donc le Fils vous rend libre, vous serez vraiment libre, » ajoute-t-il. Libérés du péché. Nous avons tout cela. La vérité nous libère maintenant et nous libérera finalement dans le sens le plus grandiose du terme. Lorsque nous ne serons plus soumis à la mortalité, les hommes les plus riches de la terre aujourd'hui ne se comparent probablement pas à Salomon en termes de ressources, d'or et de trésors, des choses que Dieu lui a données mais qui lui a aussi permis d'amasser, peut-être certaines choses qu'il n'aurait pas dû amasser, je ne fais pas de commentaires à ce sujet. Mais les hommes les plus riches d'aujourd'hui donnent tout pour avoir ce que nous avons. Or, ils ont un voile sur eux, ils ne comprennent pas ce qu'on leur propose. Ainsi, si vous ou moi allions voir l'homme qui a fait la une des journaux ces derniers temps et lui disions, vous savez, si vous vous débarrassez du nombre de milliards de dollars que vous possédez actuellement, vous pourrez avoir la vie éternelle, il se moquerait probablement de nous. Mais si Dieu l'asseyait et lui expliquait vraiment les termes, et qu'il savait que c'est pour de vrai, que je peux renoncer à ce que j'ai, et que ce n'est pas seulement que nous pourrions habiter Mars et prolonger notre vie d'un nombre X d'années à l'aide de micropuces et autre chose du genre. Il existe en fait un moyen d'atteindre non seulement une vie prolongée, mais une vie éternelle, je pense que les oreilles de cet homme se dresseraient. Pourtant, cela nous a été donné, nous n'avons même pas besoin de le demander. On nous l'a donné, la connaissance et l'offre, l'opportunité. Marc 8, verset 34. Après avoir appelé la foule et ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car quiconque veut sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, celui-là la sauvera. En effet, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Un homme pourrait devenir assez riche pour gagner le monde entier, et cela n'aurait aucun sens s'il n'avait pas la vie éternelle. Nous avons plus que quiconque sur terre, et nous devrions toujours garder cela à l'esprit. Pourtant, étonnamment, avec cet incroyable trésor qui nous a été donné, nous pouvons le laisser échapper. Nous pouvons le perdre de vue. Reportez-vous au chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux. Paul et les Corinthiens ont dit que nous avons ce trésor dans des vases d'argile. Vous savez, nous sommes ces vases temporaires remplis d'un trésor. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons les arts de l'Esprit. Nous avons les arts de la vie éternelle. Mais comme Salomon, nous pouvons tout avoir un jour et nous retrouver dans des sables mouvants spirituels un jour ou l'autre et qui sait où après cela. Hébreux 2 et chapitre 1, nous devons donc prêter une attention plus soutenue aux choses que nous avons entendues, afin de ne pas les laisser échapper. Car si la parole prononcée par les anges a été inébranlable, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui, dès l'abord, a été annoncé par le Seigneur et nous a été confirmé par ceux qui l'ont écouté? Dieu leur rendit aussi témoignage par des signes, des prodiges, des miracles divers et des dons du Saint-Esprit, selon sa volonté. Salomon est le mauvais exemple par excellence de tout avoir et de perdre tout ce qui est important. Prenons cette leçon à cœur, l'ultime mise en garde à certains égards, pour ceux qui ont reçu une connaissance précieuse, pour vous et moi, mes frères. Quand est-il Dessaü? Le père des Turcs. Les Turcs font souvent l'actualité, prenant position après la chute de la Syrie. Ce sont des gens forts. Je me souviens avoir entendu des histoires de mon arrière-grand-père à l'époque de l'Empire ottoman, lorsque le Liban était essentiellement asservi par la Turquie ou du moins sous son contrôle. Ils obligeaient mon arrière-grand-père à ramasser chaque jour un panier de sauterelles parce qu'il y avait une épidémie avant de lui donner du blé à manger pour la famille. Des gens très durs. Genèse 25. De grands producteurs de technologies aujourd'hui, des systèmes d'armement, et des gens extraordinaires. Grande industrie. Un empire conquérant dans le passé. Genèse 25, verset 19. Voici la descendance d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans lorsqu'il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, Syrien de Padanaram, sœur de Laban, le Syrien. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. L'Éternel l'implora, et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se disputaient en elle, et elle disait, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je ainsi ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton sein, et deux peuples se sépareront de tes entrailles. L'un des peuples sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le cadet. » Lorsque les jours de l'accouchement furent accomplis, voici, il y avait deux jumeaux dans son sein. Le premier sortit tout rouge, comme un vêtement velu, et on lui donna le nom d'Ésaü, qui, je crois, signifie « rouge » en hébreu. Après cela, son frère sortit, et sa main saisit le talon d'Ésaü. On l'appela Jacob, car je pense que Jacob signifie « attrapeur de talons » en hébreu, et « supplantateur » en grec. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'elle les mit au monde, Les enfants grandirent. Ésaü était un chasseur rusé, un homme des champs, et Jacob était un homme simple, qui habitait sous des tentes. Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait de son gibier. Mais Rebecca aimait Jacob. Jacob fit du potage, et Ésaü vint à lui de la campagne. Il était fatigué. Ésaü dit à Jacob, « Nourris-moi, je te prie, de ce même potage rouge. » C'est pourquoi on lui donna le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Je veux ton droit d'aînesse. Je veux ce qui t'est promis, en échange de ce bol de soupe. » Ésaü dit, « Voici, je suis sur le point de mourir, et que me rapportera ce droit d'aînesse ? J'ai faim. Je n'ai pas besoin de ce droit d'aînesse, je veux cette nourriture pour assouvir ma faim. » Grosse erreur. Jacob dit, « Jurez-moi aujourd'hui, » et il lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Jacob tint parole et donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü a méprisé son droit d'aînesse, comme Dieu l'a indiqué. Si vous allez à Romains 9, il est dit, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Dieu a méprisé ce qui s'est passé ici. Hébreux 12. Lorsque Dieu donne quelque chose de précieux à quelqu'un. Cette histoire est étroitement liée à celle de Salomon. Lorsque Dieu donne quelque chose de grande valeur à quelqu'un et que cette personne le méprise, nous sommes avertis ailleurs dans l'Épître aux Hébreux de ne pas mépriser l'Esprit de grâce. Lorsque nous méprisons, lorsque quelqu'un méprise ce que Dieu lui a donné, Dieu prend cela très, très au sérieux. Hébreux 12 et verset 14. Recherchez la paix avec tous les hommes et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne germe en vous, et qu'ainsi plusieurs ne soient souillés, à ce qu'il n'y ait pas de fornicateur ou de profane, comme Ésaü, le profane, qui, pour un morceau de viande, vendit son droit d'aînesse. Car vous savez qu'ensuite, lorsqu'il voulut hériter de la bénédiction, il fut rejeté, parce qu'il ne trouva pas de lieu de repentir, et qu'il le chercha avec soin et avec des larmes. Il voulait désespérément obtenir ce droit de naissance, mais il était trop tard. Il a conclu un marché. Et Dieu le traite de profane parce qu'il a échangé un morceau de viande contre son droit d'aînesse. Car tu n'es pas venu sur la montagne que l'on peut toucher. Combien plus grand est ce qui nous a été offert dans ce feu brûlant, dans l'obscurité, dans les ténèbres, dans la tempête, dans le son de la trompette et dans la voix des paroles, voix qu'ils entendirent et qui leur demanda de ne plus entendre la parole. Car ils ne pouvaient supporter ce qui leur était ordonné. Si une bête touchait la montagne, elle serait lapidée ou transpercée d'un trait. Le spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis saisi d'une grande crainte et d'un grand tremblement. Mais vous êtes arrivés à la montagne de Sion, à la cité du Dieu vivant, à la Jérusalem céleste, à une troupe innombrable d'anges, à l'assemblée générale de l'Église des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux, à Dieu, le juge de tous, aux esprits des justes rendus parfaits, à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et au sang de l'aspersion, qui dit des choses meilleures que celui d'Abel. Veillez à ne pas refuser celui qui parle. Car si ceux qui ont refusé celui qui parlait sur la terre n'ont pas échappé, à plus forte raison n'échapperons-nous pas si nous nous détournons de celui qui parle du ciel et dont la voix a ébranlé la terre. Puis il passe à 28, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, ayons la grâce de servir Dieu d'une manière agréable, avec respect et crainte pieuse, car notre Dieu est un feu dévorant. Respectons, pourrait dire Paul, ce que Dieu nous offre. Ne traitons pas à la légère ce qui nous a été donné, serait une autre façon de le dire, aurait-il dit aux Hébreux. Ne soyez pas comme Ésaü, qui, pour une question insignifiante, a vendu son droit d'aînesse. Saisissez ce royaume, leur dit-il, qui ne peut être déplacé. Nous devons valoriser ce qui a le plus de valeur. Notre relation avec Dieu et notre vocation avant tout, telle est la leçon qu'Ésaü nous a enseignée. Il y a beaucoup d'autres figures que nous pourrions examiner, l'orgueil de Nabuchodonosor, ou, vous savez, quels sont les autres qui vous viennent à l'esprit? L'influence néfaste de Nemrod sur les gens, etc. Mais en fin de compte, tous ces individus font remonter leurs problèmes à un être qui est l'ultime personnage imparfait, l'ultime mauvais exemple, dont Ézéchiel dit qu'il a été créé parfait dans sa manière d'être. Il était sans défaut. Il était le summum de la création de Dieu à l'époque où il a été créé. 7 ans, bien sûr. Mais c'est dans Ésaïe 14, tournons-nous là, que l'on voit où il a mal tourné. Car toutes ces histoires ont un thème commun. Chacune d'entre elles. Ésaïe 14. Et il arrivera que. 14. 3. Le jour où l'Éternel vous donnera le repos de votre tristesse et de votre crainte et de la dure servitude dans laquelle vous avez été réduit, vous reprendrez ce proverbe contre le roi de Babylone et vous direz, comment a cessé l'oppresseur, comment a cessé la ville d'or. Le Seigneur a brisé le bâton des méchants et le sceptre des dominateurs. Celui qui, dans sa colère, frappait les peuples d'un coup ininterrompu. Celui qui gouvernait les nations avec fureur, est persécuté, et personne ne l'arrête. La terre entière est en repos et se calme. Elle se met à chanter. Les figuiers et les cèdres du Liban se réjouissent à cause de toi, et ils disent, « Depuis que tu es couché, aucun insecte n'est venu sur nous. L'enfer d'en bas s'émeut à ta rencontre, à ton arrivée. Il réveille pour toi les morts, tous les chefs de la terre. Tous les rois des nations se lèvent de leur trône, et ils te parleront. Vous aussi, vous êtes devenus faibles comme nous. Or, bien sûr, Satan habite certains hommes ou possède certains hommes à la fin, mais êtes-vous devenus faibles comme nous? Êtes-vous devenus semblables à nous? Votre faste est descendu dans la tombe. Le bruit de vos coupes, le verre est répandu sous vous, et les vers vous couvrent. Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer, fils de l'aurore? Comment es-tu tombé à terre, toi qui affaiblissais les nations? Ézéchiel a dit qu'il était parfait jusqu'à ce qu'il y ait un péché en lui. Quel était ce péché? Quel était au moins un élément de ce péché? Qu'est-ce que ce péché a peut-être engendré? Ou peut-être s'agit-il du péché originel que l'on trouve ici en lui? Car tu as dit dans ton cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des cieux. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assuierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je m'élèverai au-dessus des hauteurs des nuages. Je serai, Comme ce n'est pas le cas, je serai le très haut. Satan voulait prendre les commandes. Lorsque des frères ont apostasié au cours des siècles, ce n'est probablement pas parce qu'ils voulaient devenir Dieu. Vous savez, je veux régner sur l'univers comme le Père dans les cieux. Je veux dire que c'est un être maléfique et ambitieux. Mais le plus souvent, ils voulaient prendre les rênes de leur propre vie. Et c'est là la genèse de tous ces mauvais exemples. Des gens qui veulent prendre les rênes de leur vie au lieu de s'en remettre à Dieu. Ce mauvais exemple ultime, le mauvais exemple de Satan, se retrouve dans chacun des exemples que nous avons examinés plus tôt aujourd'hui. En guise de conclusion, nous nous référons à la première partie de l'Épître aux Corinthiens, 12. 1 Corinthiens 12. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Il sait de quoi chacun de nous est capable. Mais dans cette vie, nous devons nous soumettre à lui. Nous devons nous soumettre à son gouvernement, à ses lois. Nous devons montrer que nous sommes dignes de confiance. Parce qu'il va nous donner un pouvoir impressionnant. 1 Corinthiens 12, verset 14. Le corps n'est pas composé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied dit, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, n'est-il donc pas du corps? Et si l'oreille dit, voici, je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps, n'est-elle donc pas du corps? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? Si tout le corps entendait, où serait l'odorat? Mais maintenant Dieu a disposé les membres chacun dans le corps, comme il lui a plu. Dieu nous a donné un travail spécifique, à chacun d'entre nous. Il est dit quelque part dans Paul qu'il a même créé des œuvres pour que nous y marchions. Il travaille avec chacun d'entre nous d'une manière unique et spéciale parce qu'il a prévu un avenir extraordinaire pour chacun d'entre nous, un avenir extraordinaire qui influencera en fin de compte des milliards de personnes, et plus encore. Mais nous ne pouvons pas prendre nos propres décisions. Nous ne pouvons pas être comme ces mauvais exemples, ces trois que nous avons regardés, qui voulaient faire les choses à leur manière, qui étaient en fin de compte des enfants de la désobéissance, cédant au père de la désobéissance, l'être qui voulait faire les choses à sa manière, au point qu'il voulait être Dieu. Nous vivons des vies de sacrifice, comme nous l'avons vu précédemment. Frères et sœurs, la Bible est remplie d'exemples. Nous avons le bon exemple ultime du Christ, mais nous avons aussi de nombreux mauvais exemples, dont Dieu dit que nous devrions tirer des leçons. Il est essentiel d'apprendre des deux.